France Inter.
Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des séjours en internat pour faire reculer la délinquance des jeunes. Le Premier ministre détaille cette proposition ce matin à Nice. Nous y sommes et nous vous expliquons en quoi pourrait consister ce dispositif qui existe déjà en partie. Qu'est-il arrivé au chanteur Kenji Girac, grièvement blessé la nuit dernière? Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Il est hospitalisé à Bordeaux.
Oui, le chanteur de 27 ans dit s'être blessé par accident en manipulant une arme. Une version des faits que les gendarmes cherchent maintenant à vérifier.
A tout de suite Ariane pour vos informations. À suivre encore, le patron du renseignement militaire israélien qui démissionne, conséquence de l'attaque du 7 octobre. L'intrigant voyage de Laurent Wauquiez au Japon. Un accord à la SNCF sur les fins de carrière, les menaces de grève du printemps s'éloignent. Et les anciens mineurs de Charbon-Lorrain qui entretiennent la mémoire, 20 ans après la fermeture de la dernière mine de France. Dans une vingtaine de minutes, les Jeux. Avant les Jeux, un nombre record d'athlètes français seront qualifiés pour ces JO. Nous dira Nathalie Yanetta. Et puis à 13h45, notre feuilleton, la scène avant les JO, ce sera avec les bouquinistes.
Ils ont pris conscience que les bouquinistes, ça fait partie de l'âme de Paris et ça va avec les Jeux Olympiques, quoi. Comme nous, on est spécialisés dans le sport, je pense que ça devrait être tout bénef pour nous, quoi.
Balade le long du fleuve toute cette semaine. À 13h30, j'attends toutes vos questions sur le trafic de cigarettes en France, en plein boom. Fumeur ou pas, ça vous concerne, car c'est une question de finances, de santé publique et de sécurité. D'ailleurs, une dizaine de maires d'Île-de-France demandent l'aide de l'État. Ils manifestent cet après-midi. Vous nous appelez au 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. L'histoire de Bourges et de son printemps avec Thomas Negaroff. Et puis juste avant 14h, la comédienne Nicole Garcia demande Françoise Hardy à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Commençons par un rappel factuel et basé sur les chiffres du ministère de l'Intérieur consulté par la rédaction d'Inter. Il n'y a pas eu, ces dernières années, en France, d'augmentation globale de la violence des jeunes. Mais les agressions violentes de plusieurs de ces jeunes ces dernières semaines ont mis le sujet sous les feux des projecteurs. Alors le Premier ministre s'en est emparé la semaine dernière avec une série d'annonces, dont celle-ci envoyée en internat, les jeunes qui, disait-il, commencent à avoir de mauvaises fréquentations. Idée que Gabriel Attal précise donc aujourd'hui sur le terrain. Ça se passe à Nice. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Spécialiste éducation à la rédaction d'Inter. Vous allez nous dire dans un instant ce que pourrait être ce dispositif. D'abord, on retrouve Paul Barcelone qui suit donc le Premier ministre dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Paul.
Bonjour Jérôme.
Le but du gouvernement, Paul, c'est d'éviter de laisser les jeunes tomber dans la délinquance.
Avec un programme ici quasi militaire, levé à 7h, une demi-heure de sport après le petit déjeuner, puis des cours d'éducation civique et d'histoire, des ateliers de sensibilisation par exemple aux addictions, à la baguette 4 gendarmes, des éducateurs spécialisés, des enseignants, et ce matin, dans le rôle du surgé, le surveillant général, un certain Gabriel Attal.
Est-ce que vous êtes content d'être là d'abord? Non? Bah c'est rassurant.
Ma mère m'a forcé, c'est tout.
T'as forcé, d'accord.
Bah elle m'a dit que j'allais partir en vacances.
Pourquoi tu voulais pas toi?
Parce que je voulais rester avec mes collègues, je sais pas, dehors et tout.
Et quand ta maman te dit faut pas utiliser le téléphone, tu l'écoutes?
Non.
Non.
J'utilise quand même.
Et ça te semble normal?
Non.
Ces internats éducatifs, symbole de cette République qui contre-attaque contre la charia à l'école, contre l'entrisme islamiste, des mots que Gabriel Attal assume encore.
Moi, vous savez, ce qui m'importe, c'est pas de regarder d'où viennent politiquement telle ou telle déclaration. Je pense pas que c'est ce qui importe les Français. Moi, ce qui m'importe, c'est de prendre, c'est d'abord d'avoir un discours de vérité, de lucidité, et y compris de reconnaître des choses qui vont pas alors que ça fait quelques années qu'on est aux responsabilités. Parce qu'on peut pas tout régler d'un coup de baguette magique. Je pense qu'on a fait beaucoup, notamment pour réarmer nos forces de police. Et sur la question du sursaut d'autorité, du réarmement civique, comme l'a dit le président de la République, on n'y est pas encore arrivé.
Au risque pour Gabriel Attal d'alimenter la chronique en dérive droitière de son gouvernement, d'être salué par la droite justement et le Rassemblement National. Hier, Jordan Bardella ironisait sur l'élan d'autorité du jeune Premier ministre, finalement comparé à un pistolet à eau défectueux. Ce matin, ici dans son fief de Nice, c'est le patron des Républicains, Éric Ciotti, qui félicitait Gabriel Attal. Il a enfin nommé les choses.
Merci Paul Barcelone pour ce reportage en direct de Nice avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Sonia Princé, je me tourne donc vers vous. On vient d'entendre le Premier ministre dans cet internat éducatif. Y a-t-il des places disponibles aujourd'hui dans ces internats et pour faire quoi?
Alors il y a actuellement un peu plus de 50 000 places non occupées dans les internats. Et le gouvernement prévoit deux formules. La première, des sortes de stages pendant les vacances scolaires. Les jeunes suivront, comme on vient de l'entendre à Nice à l'instant, des cours de soutien d'éducation civique et pourront pratiquer des activités sportives. Ce sera hors temps scolaire, donc encadré par des personnels de la ville, des éducateurs, des gendarmes ou même des militaires. Et puis la deuxième formule, l'internat pendant toute une année scolaire. Comme un peu plus de 175 000 élèves le vivent chaque année, ils sont pris en charge par des personnels de l'éducation nationale, des surveillants. Il faut savoir qu'il existe déjà, pour les élèves les plus décrocheurs ou les plus perturbateurs, des internats tremplin. Il en existe seulement 6 de toutes petites structures pour 10-12 élèves à chaque fois. Ces jeunes peuvent y être placés après une décision de justice ou lorsqu'ils ont été exclus plusieurs fois de leur collège ou lycée. Des éducateurs spécialisés les encadrent. Mais dans le cas de son nouveau projet, le gouvernement a assuré que le placement en internat se ferait toujours avec l'accord des parents. L'État prendra en charge les frais pour les familles défavorisées et les boursiers.
Merci Sonia Princé pour ces explications. Nous étions à Nice il y a une minute. Le procès en appel de l'attentat de Nice s'est ouvert ce matin. Il se tient devant la cour d'assises spéciale de Paris. Deux proches de l'auteur de l'attentat au camion Bélier sont rejugés. Ils avaient été condamnés à 18 ans de réclusion pour participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. C'était lors du procès en première instance. Ils ont fait appel. Le chanteur Kenji Girac est donc hospitalisé à Bordeaux depuis ce matin. Il a été gravement blessé par balle la nuit dernière. Blessure au thorax pour le populaire chanteur à la guitare, vainqueur de l'émission The Voice, on s'en souvient, c'était il y a 10 ans. Alors on a dans un premier temps craint pour sa vie, mais à cette heure, son pronostic vital n'est plus engagé. Ariane Grissel, vous êtes avec nous. Les faits se sont produits, Ariane, à Biscarrosse, sur l'aire d'accueil des gens du voyage de cette commune des Landes.
Oui, un huis clos dans lequel il est encore difficile de dire précisément ce midi ce qui s'est passé. Les pompiers sont donc appelés dans la nuit et ce sont eux qui préviennent les gendarmes vers 5h30 ce matin. Quand ces derniers arrivent sur place, les habitants des lieux refusent de leur dire quoi que ce soit. Kenji Girac est blessé par une balle qui est entrée au niveau de sa poitrine pour ressortir par le dos. Ce matin, il allait donc un peu mieux et a donné une version des faits. Le chanteur affirme qu'il a acheté une arme dans une brocante hier et que c'est en la manipulant que le coup est parti, arme qui a d'ailleurs été retrouvée sur place. La scène est gelée, comme disent les enquêteurs, c'est-à-dire que tout est laissé en l'état pour vérifier si ce scénario est crédible, ce qui va notamment passer par le fait de vérifier la trajectoire du tir, mais aussi les traces de poudre sur les mains du chanteur ou de ses proches, dont sa compagne. Une enquête confiée aux gendarmes.
Ariane Grissel pour ces informations. Leur grève avait fait beaucoup parler en pleine vacances de février. 150 000 voyageurs étaient restés en rade après le déclenchement du mouvement des contrôleurs de la SNCF. Et bien manifestement, cela a payé. La perspective de nouvelles grèves s'éloigne car les syndicats de la SNCF s'apprêtent à signer un accord avec leur direction sur les fins de carrière. Bonjour Magali Homo.
Bonjour Jérôme.
Les cheminots pourraient prendre leur retraite anticipée sans être trop pénalisés.
Oui, c'est ça. Ceux qui occupent des métiers pénibles, horaires décalés, travail de nuit, les contrôleurs par exemple, leur départ se fera sur 36 mois. Ils travailleront 18 mois à temps plein et les 18 mois restants, ils s'arrêteront et seront payés à 75%. Même principe pour les conducteurs ou les aiguilleurs. La cessation d'activité s'étalera sur 24 à 30 mois, payée 100% pendant la période où l'activité est effective et 75% ensuite. Pour les cheminots de plus de 15 ans d'ancienneté, sans pénibilité, ce dispositif s'appliquera sur 18 mois. Ils pourront opter aussi pour du temps partiel. Dans cet accord, on trouve également la création d'un échelon d'ancienneté supplémentaire pour améliorer les rémunérations. Alors, ce texte ne remet pas en cause la réforme des retraites, il vient juste réactualiser des mesures obsolètes. La majorité des syndicats s'en félicite. Pour la CGT, cet accord ouvre des droits nouveaux pour tous. La CFDT Cheminots parle, elle, d'une avancée très importante, tout comme l'UNSA. Reste Sudrail, qui doit d'abord consulter ses adhérents avant de se prononcer. Mais la menace de grève qui planait au-dessus du mois de mai et de ses différents ponts semble désormais s'éloigner.
Magali Homo. Toujours au rayon transport, grosse difficulté de circulation ce matin. En Ile-de-France, 360 km de bouchons peu avant 9h. Alors bien sûr, c'est la fin des vacances scolaires pour les franciliens, mais c'est aussi la conséquence de la fermeture de l'autoroute A13 à l'ouest de la capitale entre Paris et Vaucresson, un axe emprunté chaque jour par 110 000 véhicules et qui est fermé depuis jeudi dernier en raison d'une fissure qui est apparue sur la route à hauteur de la commune de Saint-Cloud. L'autoroute va rouvrir dans le meilleur des cas en milieu de semaine. Ça, c'est ce qu'a dit ce matin la direction des routes d'Île-de-France. En attendant, l'axe était ces dernières heures l'objet de l'attention des riverains, Faustine Mouéran.
La fameuse fissure a reçu de nombreuses visites ce week-end, en effet, notamment celle des voisins comme Didier.
C'est là, oui. Ah oui, d'accord. Et alors, ils devraient rouvrir l'autoroute bientôt, non? Pas sûr. Bon,
Ça, c'est la question à 1000 euros. Hein.
Oui, voilà. Je vais peut-être pas la gagner. Alors.
Dire la date de réouverture, personne ne s'y risque, même si le maire de Saint-Cloud semble optimiste. Une question de jour, peut-être, selon lui, au moins pour les voitures. Les camionnettes et les poids lourds, eux, c'est une autre histoire. En revanche, dans le quartier, les hypothèses vont bon train sur les causes de la fissure. Jean-Pierre a son avis, par exemple.
Par rapport aux travaux qu'il y a là, c'est vrai que c'est juste à cet endroit qu'il y a la fissure. Quoi. Ça a peut-être un lien. Hein.
Les travaux du futur musée du Grand Siècle à Saint-Cloud, effectivement, au pied du mur de soutènement de 14 mètres de haut, qui porte le viaduc de la 13 et derrière lequel passe la canalisation d'eau endommagée elle aussi. Alors pour protéger tout ça, les agents des routes sont intervenus dès samedi. La fissure a été colmatée en surface, pas en profondeur, des travaux d'étanchéité pour que la pluie ne s'y engouffre pas, ne ravine pas et n'aggrave pas l'affaissement de terrain. Depuis vendredi aussi, des drones ont volé dans l'égout pour constater les dommages et les capteurs installés dans le mur de soutènement pour les travaux du musée font des relevés toutes les 2 heures pour détecter le moindre nouveau mouvement de terrain.
Reportage France Bleu Paris. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, elle demande à l'État de prendre en charge la gratuité de l'autre autoroute qui permet de gagner Paris par l'ouest. C'est l'autoroute A14. Lui est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, et il est interpellé depuis la fin de semaine dernière par son opposition à la région sur un voyage qu'il a effectué au Japon. C'est le journal Le Monde qui a sorti l'information en fin de semaine dernière. On parle d'un voyage professionnel, mi-mars, mais qui est resté confidentiel. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Aucun élu de la région n'était informé.
Oui, un voyage organisé et payé par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, agence financée à 80% par les deniers publics et chargée de promouvoir les entreprises de la région à l'étranger. Au programme, selon le journal Le Monde, de nombreuses rencontres avec des acteurs économiques et des chefs d'entreprise, mais aussi un dîner dans un restaurant étoilé de la ville de Nagoya, servi à 150 convives, ou encore une étape dans une station de ski sur l'île d'Hokkaido. Ce sont ces possibles à côté qui dérangent l'opposition au sein du conseil régional. Maxime Meyer, coprésident du groupe des Verts.
Ce qui nous dérange avec ce voyage, c'est pas le voyage en lui-même, hein. C'est tout à fait normal qu'un président de région voyage à l'étranger. Ce qui nous dérange, c'est les possibles dépenses fastueuses qui ont accompagné ce voyage, voir des élus se faire plaisir de la sorte, c'est forcément choquant. On dépense de l'argent public et aucune information officielle n'est réalisée auprès des élus.
L'opposition de gauche qui a écrit à l'agence organisatrice pour demander la transparence et le prix de ce voyage. Le chiffre n'est pas encore consolidé, répond-elle à ce stade. Laurent Wauquiez, qui est régulièrement accusé par ses opposants d'utiliser les moyens financiers de la région pour alimenter ses propres réseaux en vue de 2027. Comme lors de ce dîner organisé en juin 2022, 90 invités, 100 000 euros de budget. Dîner qui fait l'objet d'une enquête du parquet national financier.
Précision signée Marie Mollet. Le porte-avions Charles de Gaulle quitté Toulon, son port d'attache ce matin. Après 8 mois de travaux, début d'une mission de 6 semaines en mer Méditerranée, dont 2 semaines sous commandement de l'OTAN, ce qui sera une première et ce qui a donné lieu ces dernières semaines à de nombreuses critiques venues des rangs insoumis, mais aussi de ceux du Rassemblement National. Les dépenses militaires dans le monde qui ont explosé l'an dernier. Près de 7% de hausse, c'est du jamais vu depuis 2009, selon les chercheurs de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Ils ont rendu leur rapport ce matin. Forte hausse notamment sur le continent africain. Plus 100% de dépenses militaires pour la République démocratique du Congo. Plus 78% pour le Soudan du Sud. L'Europe n'y échappe pas non plus avec la guerre en Ukraine. Nous serons en Ukraine dans un instant. D'abord, parole à Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, puisque les ministres des Affaires étrangères des 27 sont réunis aujourd'hui. Ils sont inquiets car les défenses aériennes de l'Ukraine sont de plus en plus faibles.
Nous devons insister sur la capacité des États membres de l'Union européenne à accroître leur soutien à l'Ukraine. Vous savez que nous avons envoyé de nombreux avertissements et lettres, leur demandant de voir ce que nous pouvions faire. Nous avons besoin de plus de munitions. Nous avons besoin de plus de lanceurs. Mais des lanceurs sans intercepteurs, c'est comme un canon, comme une arme à feu sans munitions. Nous avons besoin des deux. Nous devons fournir des intercepteurs aux batteries existantes et augmenter le nombre de batteries. Et voyons ce que les États membres sont capables de faire en matière d'approvisionnement. Parce qu'à Bruxelles, nous n'en avons pas. Ce sont les États membres qui en ont. Nous travaillons pour l'Ukraine tous les jours. Et aujourd'hui est une journée où les États membres doivent voir s'ils sont en mesure de faire des propositions.
Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, au micro de Pierre Benazé, lors de son arrivée ce matin à Luxembourg. Alors l'Ukraine a de plus en plus de mal, on l'entend, à parer les bombardements russes. Le chef de son renseignement militaire annonce ce matin que la situation sur le front va empirer, je le cite, autour de la mi-mai et début juin. Dans ce contexte, l'aide militaire de 61 milliards de dollars votée samedi par le Congrès américain fait figure d'éclaircie, mais pas plus, car les Ukrainiens l'ont tellement attendu qu'ils ont aujourd'hui du mal à se réjouir. Notre correspondante dans le pays, Maureen Mercier, s'est rendue dans la deuxième ville, Kharkiv, bombardée presque tous les jours. Elle y a rencontré une figure locale.
À Kharkiv, Yuri Sapronov est un personnage incontournable. Homme d'affaires, millionnaire, Yuri est russe d'origine, mais le régime de Poutine, il le maudit. Yuri se sent plus ukrainien que les Ukrainiens. Oui, il est soulagé que cette enveloppe ait enfin passé le cap du Congrès, mais...
Je suis très en colère.
En fait, Yuri dit tout haut ce que bon nombre d'Ukrainiens pensent tout bas. Il est reconnaissant, mais ne cache pas son écœurement pour autant. Il le rappelle, d'abord, cette aide est vitale, mais elle arrive trop tard pour être réellement efficace. Ensuite, elle ne suffira pas. Il tient à lire ce message qu'il a publié sur les réseaux sociaux.
Vous comprenez ce que vous nous promettez, faites-le. L'Amérique nous avait promis que cet argent arriverait au mois de décembre. Cette guerre qui détruit nos villes et nos villages, qui tue notre peuple, qui détruit l'Ukraine, le monde entier en profite, je vous le dis. Vous en profitez à tout point de vue. Vos usines d'armement tournent à plein régime, vous testez vos armes. Et pour affaiblir la Russie, ce sont les Ukrainiens qui meurent. En fait, ce dont vous avez besoin, c'est d'une zone tampon. Et à mon avis, il n'y aura ni OTAN, ni Union européenne pour l'Ukraine.
À aider de cette façon, pas suffisamment et pas assez rapidement, vous prolongez la guerre, dit-il, indéfiniment.
Reportage Maureen Mercier en Ukraine. Je vous parlais à l'instant du chef du renseignement militaire ukrainien. Le chef du renseignement militaire israélien, lui, vient de donner sa démission. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Thibault, il paye en fait son échec à empêcher l'attaque du 7 octobre par le Hamas.
Ouais, vous l'avez dit, hein, c'est un aveu d'échec, mais aussi de culpabilité dans une lettre d'une page publiée par l'armée. Aaron Aliva écrit « Vivre jour et nuit avec l'horrible douleur de la guerre » et concède ne pas avoir rempli sa mission. Un constat amer qu'il avait déjà acté seulement 10 jours après le massacre du 7 octobre, parlant alors d'un échec du renseignement. Parmi les erreurs qui sont attribuées à ses services, ne pas avoir écouté les alertes en interne qui avertissaient en avril puis en août de l'année dernière de l'imminence d'une attaque, et puis avoir trop fait confiance aux nouvelles technologies au détriment du renseignement humain. Aaron Aliva a tenté de rectifier le tir en remettant sur pied, juste après le massacre, l'unité 504 et ses agents arabophones infiltrés à Gaza alors qu'ils avaient abandonné l'enclave quelques années auparavant. Trop tard, évidemment, pour un haut gradé qui part donc à la retraite après 38 ans de service. Dans sa lettre de démission, Aaron Aliva exprime un dernier souhait, qu'une commission d'enquête soit rapidement mise sur pied. Un cadeau d'adieu empoisonné pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, soupçonné de se défausser sur ses services et de ne pas assumer ses responsabilités.
Merci Thibault Lefebvre, en direct de Jérusalem. Jérusalem où deux personnes ont été légèrement blessées ce matin dans une attaque à la voiture Bélier. Les deux auteurs présumés de cette attaque armée ont été arrêtés. Une attaque qui intervient au premier jour de la Pâque juive. La fête de Pessah débute aujourd'hui. Les Juifs se souviennent de l'exode hors d'Égypte. Et cette année, le grand rabbin de France, Raïm Korsia, demande aux familles de garder une place vide à table, je cite, pour associer les otages aux festivités. Timon Rosturk est allé à la rencontre des Français de confession juive. Ils sont près de 500 000 et très nombreux ici dans le 19e arrondissement de Paris.
Entre les étiquettes annonçant des prix chocs pour Pessa, Sulamit s'arrête devant les bouteilles de vin cachère.
Je cherche du bon vin, puisque c'est une fête. On va essayer d'être heureux et sentir un peu la liberté, quoi.
Un moment important alors qu'elle ressent une hostilité en France depuis le 7 octobre.
J'ai pas de porte-bonheur sur moi, je cache ma judaïté. Je sens une certaine antipathie à l'égard de tout ce qui est juif.
Impossible de faire abstraction aussi de la situation au Proche-Orient. Devant une étagère réfrigérée, Maurice ne peut s'empêcher de parler du récent bombardement d'Israël par l'Iran.
300 drones chargés de bombes. S'il n'y avait pas Israël qui était un peu spécialisé dans l'attaque anti-aérienne, on allait être très mal.
Ethan, 25 ans, l'admet, cette fête de Pessa ne sera pas comme les autres.
C'est une fête qu'on essaie de célébrer un peu la libération, la liberté. Et ouais, ça prend plus de signification cette année, c'est sûr.
Il célébrera Pessa chez ses parents et avoue aussi se faire discret sur son judaïsme pour éviter d'être confronté à l'antisémitisme.
En reportage, Timur Özturk.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Ne vous fiez évidemment pas à la fraîcheur de cette mi-avril en France. Le changement climatique est à l'œuvre et l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement. Les températures augmentent en Europe environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale. C'est l'un des enseignements du programme européen d'observation de la Terre Copernicus qui a publié ce matin son rapport annuel sur le climat en Europe. Alors il faut s'adapter et de nouveaux marchés apparaissent. Ainsi, les marchés des protections solaires pour les maisons et appartements volés, persiennes et stores nouvelle génération, présentés comme anti-canicule. Reportage Sandy Dauphin.
À l'école Price d'Avennes, dans le 14e arrondissement de Paris, des stores extérieurs beige et ocre sont en train d'être installés, des pare-soleils en toile micro-perforée pour empêcher le soleil de taper directement sur les fenêtres l'été. Sylvie Mazzoli, des affaires scolaires de la mairie.
Il fait très chaud dans les classes, surtout sur ce bâtiment qui est exposé plein sud. Ça monte très vite à 30 degrés en période de grande chaleur.
Philippe Seas préside le groupement Actibé, le syndicat professionnel des métiers des portes, des volets et des stores.
Ben là, pour le coup, le store arrête. Le soleil qui tape sur une vitre et qui réchauffe la pièce derrière et peut vraiment fortement réduire l'apport de chaleur à l'intérieur d'un bâtiment.
Des brises-soleil orientables, des store bans, des casquettes, des vitrages à contrôle solaire. Les professionnels misent sur le nouveau marché des protections solaires pour les bâtiments avec une nouvelle génération de stores plus techniques.
On était même à un moment à enlever tous les stores extérieurs parce que ça crée beaucoup trop d'entretien pour les communes. Avec les vents, etc., les stores étaient complètement supprimés, les stores extérieurs, et on ne mettait plus que de l'intérieur. Donc là, on revient à une chose qui se faisait il y a une quarantaine d'années. En l'occurrence, qui marche mieux aujourd'hui parce que les techniques ont évolué, la motorisation est maintenant quasiment systématique, les sécurités vent sont là, la praticité est beaucoup plus importante qu'il y a une quarantaine d'années.
Un système qui permet aussi de limiter le recours à la climatisation gourmande en énergie.
Constat alarmant aussi de la part de Copernicus pour les glaciers dans les Alpes qui ont perdu environ 10% de leur volume entre 2022 et 2023. Ce n'était pas à l'époque pour réduire nos émissions de carbone, mais tout simplement parce que le charbon français n'était plus compétitif face au charbon d'Asie notamment. La fermeture, il y a 20 ans, presque jour pour jour, de la dernière mine de charbon en France, le 23 avril 2004, le puits de la Houve à Creutzwald, en Lorraine, ouvert en 1895. Alors cette semaine, la région se souvient avec ses anciens mineurs qui continuent de témoigner, les anciens des HBL, les houillères du bassin de Lorraine, notamment, ils animent le musée de la mine de Petite-Rosselle en Moselle-Est où s'est rendue Julie Seigneurat.
Marcel Koenig, 69 ans, dont près d'un quart de siècle au HBL, est guide depuis 5 ans.
Moi, ça me fait plaisir de parler de mon métier. Je pense comme chacun qui a vécu son métier avec passion, parce que ça a été mon cas, malgré les difficultés qu'il y avait.
Au début de la visite, il nous emmène dans la cage pour descendre au fond.
J'ai déjà même eu une personne, écoutez Marcel, j'ai un tout petit peu de claustrophobie, je préférerais retourner. Je dis, écoutez madame, je vous rassure, nous sommes descendus de 0 mètre. D'autres sont déçus, ils auraient bien aimé être au fond de la mine. Ça montre que la descente est vraiment très réaliste.
Guide également depuis des années, Claude Mouillet, 81 ans, il est lui aussi toujours habité par cette passion.
Je pense que j'ai fait l'un des plus beaux métiers du monde.
parce qu'il est très dur, il faut beaucoup réfléchir et il faut être très courageux. Vous savez, il y a de la mine partout, chez moi, il y a du charbon partout.
Et même en dehors du musée, la mine est toujours là.
La plupart des villages, il y a une, deux églises, une salle des fêtes. Merlebach, il y a une piscine. La clique de Creutzwald, Balthus le Lorrain, c'est des musiciens qui sont magnifiques. Ben, tout ça, c'est la mine.
Les mineurs, un jour, ne seront plus. Les guides ne pourront compter que ce qu'on leur aura raconté. Alors profitons-en maintenant, implore Marcel.
À toute la population lorraine, venez nous voir. Message surtout aux anciens mineurs, on n'en voit pas assez souvent qui viennent nous visiter. Venez avec vos familles, vos petits-enfants, venez leur faire découvrir ce que vous avez vécu pendant plusieurs décennies. Et vous verrez, vous n'allez pas être dépaysés.
Reportage France Bleu Lorraine. Les Jeux avant les Jeux, notre rendez-vous hebdomadaire du lundi avec Nathalie Yanetta. Bonjour Nathalie.
Salut Jérôme.
Directrice des sports de Radio France. Bon, la flamme est allumée, on l'a bien compris. Elle se promène en Grèce en ce moment. Et pendant ce temps-là, les athlètes, eux, tentent de se qualifier. Et un peu comme en tribune, les places sont chères, Nathalie.
Oui, et c'est le grand paradoxe parce qu'on n'aura jamais autant eu de places pour constituer l'équipe de France. Et pourtant, vous l'avez dit, la concurrence pour décrocher son ticket est féroce parce qu'évidemment, des Jeux à la maison, bah, tout le monde veut en être.
Jamais autant de Français dans des Jeux. Pourquoi jamais autant de qualifiés?
Bah parce que le pays organisateur bénéficie toujours de quotas. Ce sont des places réservées minimum dans beaucoup de disciplines, pas toutes. Du coup, ça fait une petite garantie minimale. Par exemple, toutes les équipes de sport co ont été qualifiées d'office hommes et femmes. Ça fait donc beaucoup de chiffres, même si on ne connaît pas les noms à mettre en face. Pour tout vous dire, le Comité National Olympique Français vise une délégation autour de 550-560 athlètes. Ils étaient 378 à Tokyo.
Donc ce sera beaucoup plus cet été. Combien de sportifs sont déjà assurés de leur place?
Bah c'est peu. Somme toute, on est autour de la petite quarantaine. Les critères de décision, ils sont multiples, ils sont différents selon les sports et les calendriers aussi ne sont pas les mêmes.
Alors quels sont ces critères?
Bah alors ça dépend. Il y a des critères dits à minima. Ça c'est pour les sports qui se jouent par exemple au chrono ou sur des distances. C'est le cas de l'athlétisme par exemple. On sait que Kevin Mayer n'est pas qualifié.
Décathlon.
Il n'a pas fait ses minima, ni Renaud Lavillenie. En natation, c'est beaucoup plus simple. Tout va se jouer au championnat de France en juin à Chartres et là, personne n'a son billet, pas même Léon Marchand. Il y a des critères dits au combat, ça c'est le cas de la boxe par exemple, une sélection et une présélection dans chaque catégorie, des points attribués à chaque victoire et ça vous fait une liste. On a déjà 8 qualifiés, 4 hommes et 4 femmes, dont Estelle Mosley. Idem en escrime, on connaît toutes les filles qualifiées au sabre, les 4 garçons du fleuret aussi, restent les 2 épées filles et hommes, et le sabre homme et le fleuret femme, sachant que pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques et de l'escrime, les 6 équipes sont qualifiées. Équipe de France. Et puis il y a des choix, ce qu'on appelle au face-à-face par catégorie. Ça, c'était le cas au judo. Et là, on connaît tous les qualifiés. Eux, c'est bon, ils peuvent dormir tranquille. 7 tickets chez les filles, a priori, autant de chances de médaille. Et 7 tickets chez les garçons. Puis il y a des victoires, ce qu'on appelle au classement lors de championnats d'Europe ou de championnats du monde. Dernier exemple en date en gym ce week-end. Samir Aïd Saïd s'est qualifié grâce à son podium à Doha.
Et on a vu les images, évidemment, de ce gymnaste. Après cette qualif, on a bien compris sa joie.
Ouais.
On a du mal à se rendre compte quand même, Nathalie, qu'il reste 12 semaines seulement à tous ces athlètes pour le rendez-vous de leur vie.
Et le risque de tout perdre qui est maximal. On l'a vu d'ailleurs cette semaine avec le badminton français. Vous avez peut-être suivi cette histoire. Les champions d'Europe, la paire Labarre-Corvée, étaient sûrs d'être qualifiés après leur victoire mardi. Mais il fallait aussi tenir compte du classement global tenu par la Fédération internationale de badminton. Et alors la catastrophe, les comptes n'étaient pas bons. La paire de numéro 1 français cède sa place à l'autre paire tricolore,
incroyable,
les frères Popov. Un objectif depuis 6 ans qui s'effondre. Ils vont pas lâcher l'affaire comme ça, mais enfin quand même, l'autre gros risque évidemment, bah c'est le risque de la blessure pour les qualifiés, comme pour ceux qui sont encore en lice. En fait, pour les athlètes, c'est pas un décompte, Jérôme, qui s'est enclenché, mais une course contre la montre.
Merci Nathalie Yanetta. Je vous dis à lundi prochain, ou avant cela évidemment, si l'actualité autour des Jeux Olympiques le
nécessite,
ce qui arrive souvent ces temps-ci. Et puis il y a notre balade au bord de Seine évidemment avec notre feuilleton dans un quart d'heure et ça c'est la suite de ce 13-14. Pour l'heure il est 13h28 sur Inter. À suivre donc dans la prochaine demi-heure la météo d'Élodie Calac, plutôt fraîche voire froide. Puis à 13h30 nous parlons du trafic de cigarettes qui est en forte hausse en France. Action d'une dizaine de maires d'Île-de-France cet après-midi. Ils sont excédés par la présence des vendeurs à la sauvette dans leurs rues. Mais le phénomène est national. Il coûterait chaque année près de 3 milliards d'euros aux finances publiques. J'attends vos questions pour nos invités. 01 45 24 7000. 13h45, précisément, notre feuilleton balade Le long de la Seine, cette semaine, le fleuve se transforme pour accueillir la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. 13h50 en forme olympique. Thomas Snegaroff, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour. Jérôme.
Thomas, vous marchez, je crois, un petit peu sur les plates-bandes de Frédéric aujourd'hui.
Pas du tout.
Oh bah si,
mais si, direction Bourges.
Il est terrible.
Après deux, c'est demain que s'ouvre le printemps de Bourges, quasiment le 50e. Et il y a une grande histoire d'amour entre France Inter et le printemps de Bourges. Mais pourquoi ce printemps a-t-il lieu à Bourges?
Tout cela avec l'aval de Frédéric qui, lui, va nous parler d'une réalisatrice.
Elle est également comédienne. Il s'agit de Nicole Garcia, que vous pouvez voir en ce moment au Théâtre de Paris. Elle a choisi de nous faire écouter la chanson « Message personnel » de François Hardy.
Merci à tous les deux. Je vous dis à tout à l'heure.
Chantal, ma biche, on va où aujourd'hui? Toulouse, Strasbourg?
Ah, mais si c'est pour les saucisses, t'es sur la bonne route, Michel. Mais si c'est pour trouver une véranda, pas besoin de prendre la voiture, crois-moi. Akena est partout en France.
Mais c'est...
Ils sont partout, je te dis, de Lille à Marseille et de Lorient à Mulhouse.
Akena, la reine des vérandas.
Et les pergolas.
Chantal, reviens!
Ah, je te dis qu'ils sont partout.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines, vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand?
Désolé, le mouton à cinq pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonjour Élodie Callac.
Bonjour à tous.
Donc, une journée assez froide avec des averses sur l'Est et le Nord.
Exactement, on a un ciel qui hésite entre nuages et éclaircies. Les éclaircies sont belles de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, plus timides du Nord-Est vers l'Auvergne, le Jura, les Alpes, la Provence et la Corse avec des averses, parfois orageuses vers la Côte d'Azur. Un petit peu de neige vers 700 à 900 mètres sur le relief de l'Est, sur le Massif central aussi, 1200 mètres en Corse. On a un vent de Nord qui se fait sentir un peu partout. Il souffle assez fort en Méditerranée jusqu'à 80 km à l'heure pour Mistral et Tramontane. De la Bretagne au nord de la Seine, là, de plus en plus de nuages à l'approche d'une perturbation. Quelques averses également. Et puis, il fait trop froid pour la saison, souvent 4 à 8 degrés sous les normales. Comptez 8 à 13 degrés de la Manche vers le Massif central et les Alpes, 13 à 15 sur le sud-ouest, jusqu'à 17 en Méditerranée. Il va falloir attendre la fin de la semaine pour voir les températures remonter.
Merci Élodie Callac, Météo France.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Ce sont 10 maires de 10 villes du département de Seine-Saint-Denis au nord-est de Paris. 10 maires de différentes familles politiques réunis cet après-midi pour dénoncer le trafic de cigarettes que subissent leurs communes. On compte aujourd'hui près de 80 points de deal de cigarettes à Paris et dans les communes alentours. On en comptait 5 avant le confinement. Mais ce phénomène ne se limite pas à l'Île-de-France. Loin de là, le trafic est en hausse partout en France. 650 tonnes de tabac et de cigarettes saisies en 2022 contre 180 en 2020. Et ces derniers mois, plusieurs usines clandestines de fabrication démantelées, notamment à Toulouse ou encore dans l'agglomération de Rouen. Alors on tente de comprendre avec nos invités. Corinne Cléostrate, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sous-directrice à la lutte contre la fraude à la Direction Générale des Douanes. Et nous sommes en ligne également avec Bertrand Kern, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire socialiste de Pantin, qui est l'une de ces communes situées tout près de Paris, et vous êtes l'un des organisateurs et participants de ce rassemblement qui aura lieu tout à l'heure. J'attends pour vous, pour nos deux invités, les questions des auditeurs d'Inter, 01 45 24 7000 ou via l'application France Inter. Bertrand Kern, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe dans votre commune depuis quelques mois et l'objectif du rassemblement de cet après-midi?
Alors, si vous voulez, vous avez... plusieurs dizaines d'individus qui sont présents sur les deux stations de métro de Pantin qui sont les plus fréquentées, qui font d'ailleurs parmi celles qui sont les plus fréquentées en Île-de-France, la station Hoche et la station Pantin-Aubervilliers 4 chemins. Et ils vendent des cigarettes, on appelle ça Marlboro Blade, à 5-6 euros alors qu'elles valent 12 euros chez le buraliste. Ce sont des cigarettes de contrebande. Ce sont pas des cigarettes qui sont importées de l'extérieur. Ce sont des cigarettes qui sont fabriquées avec du tabac de très mauvaise qualité. On trouve de l'arsenic, on trouve du plastique. On a même trouvé des traces de morora dans certaines de ces cigarettes. Et à 5-6 euros, si vous voulez, ben les gens les achètent.
Quelles conséquences ça a sur votre commune et sur les autres communes de ce territoire de Seine-Saint-Denis, même au-delà, parce qu'il y a d'autres communes d'Île-de-France qui sont concernées. C'est quoi ? C'est pour les commerçants ? C'est pour les riverains ?
Pour les commerçants, pour les riverains, c'est un espace public qui devient très anxiogène. Ce sont des personnes qui seront très agressives avec la gente féminine. Moi, j'ai par exemple une maman qui, lorsqu'elle va à l'école, elle amène son enfant à l'école le matin. Elle évite la station de métro Hoche parce qu'elle a peur de tomber face à ces personnes qui souvent sont sous emprise de stupéfiants. Je fais pas leur procès parce que ce sont de pauvres gens qui sont souvent en situation irrégulière.
Oui, quel est leur profil ?
Ce sont de jeunes hommes issus de l'immigration illégale qui n'ont pas de statut, qui sont un peu dans une zone d'ombre et qui sont rémunérés par des gros bonnets qui les payent quelques euros par jour pour la vente de ces paquets de cigarettes. Savoir qu'aujourd'hui dans notre pays, étude de la CEITA, vous avez...
Donc c'est l'un des industriels majeurs du secteur, hein, Bertrand Kern.
C'est ça. Vous avez plus de 40% des paquets de cigarettes consommés en France, mais sur tout le territoire, oui, qui soit viennent de l'importation par duty free ou par les achats transfrontaliers, soit de la cigarette de contrebande qui est frelatée.
Je voudrais vous faire réagir à ce chiffre, Corinne Cléostrade, parce que justement, les industriels communiquent beaucoup sur ce sujet et reprennent le chiffre que Bertrand Kern vient de nous donner. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est la part du commerce illicite ? 40% disent les industriels.
Alors nous, on reconnaît pas du tout hein, la légitimité de ce chiffre, dont on ne connaît pas d'ailleurs précisément la méthodologie employée pour l'établir. En tout cas, cette méthodologie, a priori, n'est pas étayée de manière, j'allais dire, scientifique et même indépendante. Conformément à ce qu'a annoncé notre ministre Thomas Cazenave, on est en train d'étudier et de structurer justement les modalités d'une étude qui soit la plus objective et la plus, j'allais dire, scientifique possible pour déterminer justement quelle est cette part de marché. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent.
Nous ne cautionnons... Le 40%, vous ne le reprenez pas
non,
à votre
on
compte.
Ne le cautionne pas parce qu'on ne connaît pas du tout la méthode qui a été employée et qui plus est, de ce qu'on sait de cette méthode, elle nous paraît insuffisamment robuste pour être fiable.
Voilà. Je vous pose la question parce que des associations anti-tabac trouvent ces chiffres trop élevés, estiment que les industriels s'en servent pour profiter de ce trafic en quelque sorte, pour dire qu'il y a trop de taxes sur les cigarettes. Donc c'était intéressant et utile que vous fassiez, pardonnez-moi, ce rappel Corinne Cléostrade. En revanche, vous, ce que vous savez, c'est les quantités que vous saisissez.
Oui, alors ces quantités effectivement augmentent. Il y a eu, j'allais dire, un retournement du marché à partir des années 2020. Auparavant, on était plutôt sur des quantités qui oscillaient selon les années 250-300 tonnes. On a eu un pic qui a été franchi en 2021 avec 400 tonnes. Et effectivement, le chiffre que vous avez indiqué pour 2022 est celui-ci, c'est-à-dire 650 tonnes, qui est un record historique absolu. Alors, je n'ai pas encore les moyens de vous donner précisément le chiffre de 2023, mais effectivement, nos saisies restent élevées. Mais au-delà des chiffres, pour rejoindre ce que disait Monsieur le maire, c'est qu'il y a en effet une diversification des trafics et une structuration des filières. Et c'est ce qui est intéressant à observer, c'est que la douane, qui a un nouveau plan d'action en matière de tabac, c'est un plan qui avait été dévoilé par Gabriel Attal en 2022, eh bien, ce plan, justement, il vise à identifier ces filières et à les démanteler. Parce que, effectivement, il y a des points de vente à la sauvette, mais ce qui est important de savoir, c'est d'où vient ce tabac.
J'ai employé l'expression « point de deal ». Ça rappelle le trafic de drogue. Est-ce qu'on peut faire la comparaison entre trafic de drogue et trafic de cigarettes, Corinne Cléostrade ?
C'est une comparaison tout à fait pertinente. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, nous, et c'est une tendance récente, c'est une tendance qui remonte à 2-3 ans, c'est que de plus en plus, on voit des similitudes dans les modes opératoires, dans les individus aussi qui sont impliqués dans ces trafics, entre les trafics de stupéfiants et les trafics de tabac. Et avec des conséquences aussi sur la sécurité publique et sur l'ordre public, qui sont celles qu'on observe en matière de trafic de stupéfiants.
Nous avons un appel d'Éric, 01 45 24 7000. Bonjour Éric.
Oui, bonjour, moi je voulais intervenir.
Vous nous appelez du département du Var.
Oui, voilà, j'habite dans le Var, donc je suis à 100 km de la frontière italienne, mais c'est pareil pour ceux qui sont à proximité de la frontière espagnole. Moi, mon tabac en Italie, le même que je fume, il me coûte moitié moins prix. C'est la moitié du prix, sachant que donc c'est que des taxes, et vu ce que le nombre de personnes tue en fumant du tabac, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie à vouloir me faire passer pour un trafiquant. Hein.
Bah, en tous les...
Je veux dire, c'est quand même un petit peu hallucinant de s'entendre dire que les gens qui... Il y a du trafic de cigarettes, mais les cigarettes, elles sont légalisées. Les frontières, supposément dans l'Europe, il est possible de les traverser. Donc je ne comprends pas. Pourquoi on peut faire de l'argent en vendant éventuellement des sèches-linges qui sont produits en Pologne moitié moins cher qu'en France, et on ne pourrait pas acheter du tabac en Italie ou en Espagne. Je ne comprends pas.
Merci Eric pour ce témoignage. Là, on parle de la vente dans la rue qui est interdite, oui. Corinne Claustrat. En revanche, que fait Eric aller acheter des cigarettes en Italie, ça c'est autorisé.
Alors, il peut aller acheter effectivement des cigarettes en Italie selon une certaine, j'allais dire, selon certaines conditions.
Qui ont évolué récemment.
Voilà, exactement.
Vous pouvez nous le rappeler ?
Bien sûr. Donc, monsieur peut très bien traverser la frontière, comme il indique, pour aller acheter des cigarettes en Italie, à condition que ce soit pour ses besoins propres. Et donc, aujourd'hui, les agents des douanes, s'ils font un contrôle, eh bien, demanderont à ce monsieur de savoir ce qu'il détient, ce qu'il transporte. Et si il n'y a aucun critère qui permet d'établir que c'est pour des fins commerciales, eh bien, il sera tout à fait légitime à détenir ses cigarettes.
Mais le seuil de 200 cigarettes, qui était l'ancien seuil, a disparu.
Alors, il n'y a plus de...
Il n'y a plus de seuil.
On ne peut pas parler de seuil, la quantité est un des critères. Il y en a 12 dans le texte qui vient de sortir, qui permettent de déterminer ou non s'il s'agit pour ses besoins propres de consommation.
Donc si c'est pour ses besoins propres, on peut amener, transporter autant de cigarettes.
Non, il y a quand même un critère quantitatif qui déclenche finalement aussi cette vérification. C'est ce seuil qui n'est qu'un seuil, un critère parmi d'autres, je tiens à le dire. Hein, ce n'est pas une franchise, c'est un seuil, c'est un critère. Monsieur peut très bien détenir... 3 cartouches, mais si on découvre par exemple des factures ou des documents qui prouvent qu'il a une activité commerciale autour de ces cigarettes, eh bien ça sera quand même une activité commerciale.
Bertrand Kern, vous êtes le maire de Pantin, vous manifestez donc cet après-midi. Je voudrais vous faire rebondir au témoignage d'Éric, à l'instant qui soulève la question du prix des cigarettes en France, beaucoup plus cher que chez nos voisins. Est-ce que c'est pour vous un sujet, voire le sujet central ?
Ça commence à devenir un sujet parce que le paquet de cigarettes est vendu maintenant 12 euros. Vous allez en Espagne, par exemple, c'est 5,50 euros, 6 euros le paquet de cigarettes. En plus, vous avez des promotions, vous imaginez. Et le gouvernement prévoit de monter à 13 et 14 euros en 2025 et 2026. Je pense que cette politique devient contre-productive parce qu'elle encourage... les trafics de cigarettes de contrebande que j'appelle frelatés, qui n'ont rien à voir avec des cigarettes qui seraient achetées à l'étranger, à des prix qui sont plus compétitifs.
Donc, ça ne vous paraît pas être le bon moyen de lutter contre la consommation ? C'est 66 000 morts par an, hein, selon Santé publique France.
Mais vous savez, les cigarettes de contrebande qui sont vendues dans la rue et qui contiennent autre chose que du tabac, c'est un problème de santé publique aujourd'hui. Parce que les consommateurs qui vont acheter ces cigarettes à la sortie du métro ou du RER en région parisienne, mais dans les gares, parce que l'étude de la CETA est certes imperfectible, elle est perfectible, mais elle a quand même été faite dans 126 villes de France. Et à partir, ils sont partis des paquets de cigarettes qui ont été trouvés dans les poubelles et ils ont fait un sondage. Certes, je suis d'accord avec notre interlocutrice, c'est imparfait, mais aujourd'hui, ça devient un problème de santé publique parce que non seulement le tabac, c'est pas bon pour la santé, mais les cigarettes de contrebande, c'est encore pire.
Alors, je voudrais vous faire réagir, Corinne Claustrat, parce qu'on parle de deux choses différentes. Il y a des cigarettes qui sont vendues légalement en Europe et qui sont importées en France. Et puis, il y a aussi des cigarettes qui sont fabriquées sur le sol français, clandestinement.
Alors, je voudrais juste rectifier le propos de monsieur le maire, si vous permettez. Il s'agit en l'espèce de cigarettes de contrefaçon, voilà, et pas de contrebande. Pour nous, c'est...
Quelle différence vous faites entre contrefaçon et contrebande ? Ça revient à ma question.
Des cigarettes authentiques, qui arrivent, qui sont importées en dehors de tout circuit légal, ça c'est de la contrebande. En revanche, ce qu'il y a, c'est qu'il y a...
Contrebande, je les achète en Belgique, je les importe par camion entier sans les déclarer en France.
Sans les déclarer en France,
et je les revends sous le manteau.
Vous l'importez de pays tiers, pays d'Asie du Sud-Est, par exemple, par conteneur.
Ok, mais ce sont de vraies cigarettes.
Mais ce sont de vraies cigarettes authentiques. La contrefaçon, ce sont ces cigarettes qu'évoquait monsieur le maire, qui sont fabriquées dans des usines clandestines. Alors, vous avez évoqué le fait que ça pouvait être fabriqué en France, certes, mais en France, depuis fin 2021, on a identifié et démantelé 5 usines, alors que les grosses usines, les principales usines, ne sont pas en France.
Elles sont où ?
Elles sont de l'autre côté de la frontière. Elles sont dans certains pays d'Europe de l'Est. Je pense à la Pologne en vous disant cela, mais on en trouve aussi en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, et plus récemment dans le sud de l'Europe aussi, en Espagne, au Portugal. Donc, c'est les usines clandestines. C'est un phénomène qui a émergé dans les années 2016, voilà, et qui continue à se propager. Et monsieur le maire a tout à fait raison. Fumer, évidemment, tue et dangereux, mais fumer de la cigarette de contrefaçon, évidemment, ça amplifie encore le risque et le danger.
Vous les avez analysées, ces cigarettes de contrefaçon, aux douanes ?
Alors, on les a analysées. On a un laboratoire à Marseille qui est spécialisé pour l'analyse de ce type de produits. Et ce qu'on a relevé, c'est qu'en fait, il y a très très peu de tabac. Voilà. Et il y a toutes sortes d'ingrédients.
Qu'est-ce qu'on fume alors ?
On fume du produit chimique, on fume des métaux lourds, on fume effectivement, monsieur le maire a raison, des résidus de toutes choses, de l'argile et d'autres produits qui n'ont rien à voir évidemment avec le tabac et qui aggravent encore la situation.
On a des témoignages, Corinne Cléostrade, d'auditeurs qui nous disent les forces de l'ordre n'agissent pas. Romain, à Lyon, il y a de la vente de cigarettes devant les cars de CRS qui sont postés en permanence et qui n'interviennent pas. Quelle est l'action des douanes ? Action renforcée, en tout cas, ce sont les annonces qui ont été faites par le gouvernement ces derniers mois.
Oui, alors tout à fait, action renforcée. Nous venons de réaliser une opération Colbert. Thomas Cazenave a salué les résultats de la douane, puisqu'en effet, et pas seulement les résultats de la douane d'ailleurs, parce que dans ce domaine, nous travaillons en parfaite coopération avec les services du ministère de l'Intérieur, que ce soit la gendarmerie nationale, la police nationale, les polices municipales aussi, la préfecture de police pour Paris, le ministère de la Justice. Donc on travaille vraiment en parfaite synergie. Et cette opération a permis de couvrir tous les vecteurs d'approvisionnement. On est beaucoup focalisé sur les ventes à la sauvette, certes, mais il faut aussi s'attaquer aux filières et à celles qui approvisionnent. Aujourd'hui, le marché du tabac en France, il est alimenté par bien d'autres vecteurs. Il est alimenté par le fret postal, le fret express, sur lequel la douane est très présente. Nos collègues font aussi beaucoup de contrôles sur le fret passager qui arrive par avion entier. On a les mêmes finalement constatations que pour les trafics de stupéfiants. Ouais. Et le vecteur routier, dans le cas de l'opération Colbert, sur les 27 tonnes, 24 tonnes ont été saisies sur le vecteur routier, qui reste quand même un vecteur massif d'approvisionnement.
Merci à tous les deux. Corinne Cléostrade, sous-directrice à la lutte contre la fraude à la Direction Générale des Douanes. Merci également à Bertrand Kern, le maire de Pantin, tout près de Paris. 13h45 sur Inter. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir appelés nombreux. Une semaine dans leur vie, c'est notre feuilleton. Et nous allons flâner toute cette semaine sur les bords de Seine, grâce à notre reporter Emma Sarango. La Seine, fleuve qui se métamorphose en ce moment pour accueillir le 26 juillet la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Premier épisode, rencontre avec les bouquinistes. Ils ont finalement obtenu le droit de rester avec leur célèbre boîte verte, fixée le long des quais. Elles contiennent les livres, les magazines des vendeurs, mais aussi, pour Titi, le bouquiniste que nous rencontrons aujourd'hui, des affiches de sport.
9 euros, please. España, Colombia. Hay mucho colombiano aquí. Mucho, mucho colombiano. Gracias, donc 9.
Nous, on est spécialisés surtout sur le Tour de France. C'est surtout des posters du Tour de France et nous avons des magazines des originaux. On se spécialise beaucoup sur le football, le tennis, la Formule 1. Et puis là, on commence à attaquer un petit peu donc, certaines disciplines des Jeux Olympiques. Bonjour, gracias.
Là, j'ai l'aviron. Ça, c'est l'affiche officielle des Jeux Olympiques 2024. On va essayer de trouver des posters qui peuvent intéresser un petit peu toutes les disciplines. Comme le handball, par exemple. On n'a pas du tout de handball. Le volleyball. Il y a plein de sports qu'on n'a pas. Hockey sur le gazon. Natation, on n'a pas non plus. L'escrime, on me le demande souvent, mais on n'en a pas. Et pareil, les gens me demandent des images rétro. Donc il va falloir qu'on cherche pour satisfaire un petit peu nos clients, quoi, parce que nous, on est quand même spécialisés là-dessus, on est assez connus. Quoi. Même,
où est-ce que vous trouvez ça ?
Nous, on les trouve un peu partout, hein, sur Internet, on fait des recherches, on achète des lots. Il y a plusieurs manières, des gens ils viennent nous les proposer eux-mêmes en passant sur les quais. Il y a plusieurs possibilités. Quoi.
Et vous allez être là tous les jours alors, pendant les Jeux ?
Oui, tous les jours. Comme nous, on est spécialisés dans le sport, je pense que ça devrait être tout bénef pour nous. Quoi. Mais on ne sait pas, c'est peut-être aussi une autre clientèle. Repassez me voir fin septembre, après les Jeux Olympiques, je vous le dirai. Mais je ne sais pas du tout, parce que c'est une clientèle qu'on ne connaît pas, parce que c'est la première fois finalement qu'il y a les Jeux Olympiques. Hein.
Donc finalement, ces JO qui ont été un tel bras de fer pour vous, sont finalement une chose positive ?
c'est la meilleure des choses qui pouvait se passer, quoi. Nous, on se bat depuis le départ par rapport à ça. C'était complètement aberrant de, qu'on ne puisse pas associer les bouquinistes avec les Jeux Olympiques. En plus, nous, parce qu'on est spécialisés sur le sport, donc ça nous faisait un petit peu de mal quand même. Donc je crois qu'ils ont pris conscience que les bouquinistes, ça fait partie de l'âme de Paris et ça va avec les Jeux Olympiques, quoi. Fallait pas nous enlever, quoi. Donc c'est une bonne chose pour tout le monde, je pense.
Sentez l'enthousiasme chez vos clients, ils vous en parlent assez bientôt?
Non, s'ils m'en parlent, ils m'en parlent pas en bien, en règle générale. La plupart des Parisiens, ils veulent partir. Hein. Vu les prix qu'ils annoncent là, pour les compétitions, pour moi, c'est les Jeux Olympiques pour les riches, quoi. C'est pas pour tout le monde, quoi. J'adore le sport, je peux pas me permettre de me payer un événement quelconque en sport. Ça coûte trop cher. Si vous voulez mon avis, moi pour moi, je trouve ça complètement aberrant qu'ils fassent ça sur la Seine. Hein, 12 km à sécuriser, pour moi, c'est excessivement compliqué, risqué. Moi, j'aurais préféré qu'ils fassent ça dans un stade comme partout, quoi.
Sur les JO en général, est-ce que vous êtes un peu enthousiaste quand même comme passionné de sport?
Bien sûr, j'adore. D'ailleurs, je vais travailler pour les Jeux Olympiques, mais en tant que chauffeur, là. Je ferai moitié bouquiniste et moitié chauffeur pour les Jeux Olympiques. J'aurai les personnalités, quoi, pour les emmener au stade. Puis le week-end, je viens ici sur les quais pour faire mon petit boulot de bouquiniste que j'adore. Voilà, 50 et 51. Voilà. Merci beaucoup, madame. Bon après-midi à vous.
Et nous laissons les bouquinistes, nous reprendrons notre balade au fil de l'eau demain, nous sommes sur les bateaux-mouches.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, à 13h50, le lundi, l'histoire d'un lieu qui fait l'actualité. C'est avec Thomas Snegaroff. Thomas, à la veille de l'ouverture du printemps de Bourges, direction donc la capitale du Berry.
Mais comment cette ville est-elle devenue l'une des capitales de la chanson française? Pour le comprendre, il faut revenir au milieu des années 1970. Daniel Colling, jeune trentenaire, a créé une agence artistique. Les artistes qu'il fait tourner, comme Jacques Higelin ou Bernard Lavillier, n'ont pas accès aux très grands médias. À l'époque, il n'y a que 3 chaînes de télévision et 2 émissions de variété, celle des Carpentiers et celle de Guy Lux. Alors si vous n'étiez pas Michel Sardou, Claude François, Dalida, Sheila ou Mike Brandt, bon courage pour lancer une grande carrière. C'est ça l'idée première de ce festival. Offrir à toute une chanson française que Colling distingue de la variété, une formidable vitrine. Symboliquement, Colling cherche à être très loin culturellement de Paris et du tapage de la variété. Un de ses amis, l'écrivain, poète et journaliste Maurice Faux, ancien secrétaire particulier de Léo Ferré, lui indique Bourges, qui possède la première maison de la culture inaugurée par Malraux et qui se trouve être la plus ouverte à la chanson grâce à Alain Meillant, chanteur lui-même. Le geste est culturel et politique. Daniel Colling dira des années plus tard:
le premier printemps était une réaction contre le show business et ses paillettes. Un cri d'amour pour la chanson à texte et électrifiée contre la variété, d'où le mot printemps. Un clin d'œil au printemps de Prague pour marquer un renouveau.
Thomas, cette première édition est un succès. 13 000 spectateurs en seulement 5 jours.
Oui, un immense succès, notamment grâce à l'immédiat soutien de France Inter. Claude Villers y présente Marche ou Rêve en direct tous les soirs depuis Bourges pour cette première édition. Une édition avec comme point d'orgue en 1977 un hommage à la nouvelle chanson française, Jacques Higelin en tête, hommage à Charles Trenet, un grand moment qui laisse le fou chantant très ému.
Charles Trenet, qu'est-ce que vous venez chercher ici?
De la chaleur humaine, de l'amitié. Je viens plutôt donner que chercher.
Vous pensez faire une chanson ici sur Bourges après?
Ah, pourquoi pas? Mais le Berry est vraiment un endroit adorable. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a une très grande intimité, car c'est très difficile d'être à la fois pour une ville intime et pimpante.
Une ville intime et pimpante, dit Trenet. C'est joli?
C'est joli, mais ça pose des problèmes pour les habitants qui aimeraient conserver le caractère intime de leur ville pendant ces quelques jours de festival de chansons un peu trop pimpantes pour eux. À l'image de ce berruyer dans un café de la ville, nous sommes en avril 1979 pour la 3e édition du Printemps de Bourges.
Franchement, vous croyez que c'est bien ça? Tous ces gars ou filles, je n'en sais rien, je ne sais pas qui c'est. Hein? Et je me suis pas approché. Qui sont vautrés là sur les mains? Oh, non.
La dimension du festival a dépassé la ville de Bourges.
Alors, on ne sait pas qui
ils
c'est.
Ils sont vautrés sur les marches.
Le décalage entre les festivaliers, 50 000 en 1981, et les habitants met en péril l'événement qui, malgré ce succès, chaque année jusqu'en 82, doit renégocier le budget avec la Maison de la Culture et débattre de la survie même du festival. Car si la ville est communiste, le gouvernement est de droite. Alors pourquoi tout change en 1982? Parce que cette année-là, Jack Lang, ministre de la Culture, accorde une subvention de l'État. Le festival s'envole 10 fois plus riche, au risque parfois de perdre son identité, avec des stars de la variété dans les années 1990 même. En 1999, un boys band sur scène, mais le printemps a su se retrouver.
Génial.
Et mardi s'ouvrira la 48e édition, marquée notamment par un hommage à Renaud, compagnon du Printemps de Bourges depuis les premières heures.
Merci Thomas Snegaroff. Il y aura aussi pendant ce Printemps de Bourges un hommage à Françoise Hardy, transition habile, de C'est la France à C'est une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est réalisatrice et comédienne. Il s'agit de Nicole Garcia.
Elle est actuellement à l'affiche du Théâtre de Paris, où elle reprend Royan, la professeure de français. Un monologue imaginé pour elle par Marine Diaye. Et c'est de Françoise Hardy que Nicole Garcia a souhaité me parler, avec une chanson composée en 1973 par Michel Berger, Message personnel, dont Françoise Hardy a elle-même écrit la partie parlée.
Bon, j'aime beaucoup la chanteuse qui est Françoise Hardy, j'aime beaucoup son élégance interprète, son élégance tout court. Alors, cette chanson, elle parle de comment cette femme, cette jeune femme s'embourbe dans une rupture, comme on s'embourbe tous dans les ruptures, on ne sait plus par quelle voie s'en échapper. Et quand la musique arrive, c'est comme une sorte d'appel, si tu reviens un jour... Sache que je t'aime et que tu peux revenir, ne t'embête pas avec les souvenirs, tu peux revenir. Donc c'est très beau. Puis dans les moments où elle est triste, quand cette phrase, quand la paresse de la vie s'installe en toi, c'est formidable, quand la paresse de la vie s'installe en toi. C'est dit avec mélancolie, quoi. Voilà, on voudrait tous être mélancolique comme elle.
Et est-ce que vous avez souvenir d'avoir été dans un état proche de l'état qu'elle chante, Françoise Hardy, dans cette chanson?
Je ne savais pas que j'allais me livrer un vrai acte de confidence de ce type-là. Mais oui, oui, et pire encore, quand je parle d'embourbement, on se souvient en tout cas de cette période-là, que c'est une période où on y voit plus clair, quoi. On a l'impression qu'on survit, quoi, qu'on est en état de survivance à quelque chose qui vient de se passer et qu'on va se remettre debout, mais on n'y est pas encore.
Au bout du téléphone, il y a votre voix.
Au bout du téléphone, il y a votre voix.
Et il y a les mots que je ne dirai pas.
Il y a des mots que je ne dirai pas.
Tous ces mots qui font peur.
Tous ces mots qui font peur quand ils ne le font pas rire.
Qui sont dans trop de films.
Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres.
Je voudrais vous les dire.
Je voudrais vous les dire.
Et je voudrais les vivre.
Et je voudrais les vivre.
Je ne le ferai pas.
Je ne le ferai pas.
Je veux. Je ne peux pas.
Je peux pas.
Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître.
Je suis seule à crever et je sais où vous êtes.
Pour vous, j'ai tout le mien.
J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous, j'ai tout le mien.
Je voudrais arriver. Je reste. Je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux. Je ne peux pas.
Je voudrais arriver. Je reste. Je me déteste.
Je devrais vous parler. Je devrais arriver. Où je devrais dormir.
Je devrais arriver, où je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche.
J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète.
J'ai peur d'être indiscrète.
Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être.
On ne peut pas vous dire que je t'aime, peut-être.
Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi.
Il y a des gens qui vivent la rupture plus facilement que d'autres. Moi, j'ai vécu la rupture des deux côtés de manière difficile. Quand j'ai quitté, j'ai été très triste de le faire, quoi. Mais enfin, on fait avec ce qu'on peut, hein, dans ces moments-là. on fait avec qui on est. Parce que la rupture, de toute façon, elle est difficile par les deux parties.
Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver.
Quand vous entendez cette chanson-là, est-ce que c'est Françoise Hardy que vous voyez ? Et si vous la voyez, elle, vous la voyez où, dans quel cadre ? Est-ce qu'on est dans un appartement ? Est-ce qu'on est dans une maison ? Est-ce qu'il y a un jardin ?
Non, je la vois sur une plage. Je vois beaucoup de gens sur les plages, moi. Je la vois se promener sur une plage. Sa longue silhouette, toute seule, et rêvant à ne plus être toute seule. Sur cette même plage. Oui, plutôt sur une plage qu'au coin du feu. La plage me transporte. L'océan, la mer, enfin les rivages, oui. Les rivages me transportent plus que n'importe quel autre paysage, alors c'est pour ça que je la plaçais dans ce paysage de prédilection. Mais je vois toujours autour d'elle quelque chose de romanesque. Elle est poétique, Françoise Hardy. Elle amène en elle une poésie naturelle et admirable.
Message personnel, Françoise Hardy, c'était donc Frédéric Le Choix de Nicole Garcia.
Nicole Garcia, que vous pouvez retrouver dans Royan, la professeure de français, pièce de Marine Diaye, qu'elle reprend jusqu'à la fin de la semaine au Théâtre de Paris.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme.
Plaisir de vous retrouver. Quel est le programme aujourd'hui ?
Eh bien, on va parler de deux choses qui ne vont pas vraiment ensemble, l'écologie et l'armée.
Oui, effectivement, voilà. À tout de suite.